Que portez-vous?
Eh bien, enfin, il fait beau, n'est-ce pas? Hier, ma famille est allée faire une balade à vélo, et pour la première fois cette année, j'ai porté un short. C'était magnifique. Je pense, j'insiste bien sur le fait que je pense, que je peux ranger mon lourd manteau bleu pendant les prochains mois, et peut-être, juste peut-être, sortir sans manteau. Que portez-vous aujourd'hui? Faites le tour et demandez aux gens. Bien sûr, je peux regarder autour de moi et voir ce que vous portez physiquement. Vous êtes tous si beaux et magnifiques. Mais que portez-vous spirituellement? Portez-vous les anciennes habitudes et attitudes que vous aviez avant de connaître Christ? Ou portez-vous les nouvelles habitudes et attitudes qui nous sont données en Christ? Paul va nous amener à réfléchir à cette question ce matin, alors que nous continuons à étudier la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous sommes au milieu du chapitre 4, comme nous avons étudié cette lettre ce printemps. Si vous vous souvenez, plus tôt dans la lettre, Paul opposait le passé au présent. Il disait « Vous étiez morts dans vos péchés et vos offenses avant de connaître Christ. Mais maintenant, vous avez été sauvés par la grâce, par la foi en Jésus. » Il opposait ainsi le passé au présent. Mais maintenant, il va avertir l'Église de ne pas retourner aux habitudes du passé. Paul poursuit la réflexion que nous avons vue la semaine dernière dans le chapitre 4, verset 1. Marchez d'une manière digne de votre vocation en Christ. C'est ainsi que nous devons marcher. Maintenant, il va dire comment vous ne devez pas marcher. 17. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la débauche pour commettre toutes sortes d'impuretés avec avidité. Paul dit à l'Église, « N'y retournez pas. Ne retournez pas à vos anciennes habitudes d'avant votre rencontre avec Jésus. » Il décrit ce que c'est que d'être perdu sans Christ. Ils pensent être éclairés, mais leurs esprits sont remplis de ténèbres. Ils ignorent Dieu et ses voies. Leur cœur est endurci, tellement endurci qu'ils sont devenus insensibles et se livrent à leurs désirs sexuels, à la cupidité et à toute autre pratique sombre à laquelle vous pouvez penser. Peut-être pouvez-vous vous rappeler cette vie avant de rencontrer Jésus. Faire tout ce qui fait du bien, ou faire n'importe quoi juste pour obtenir ce que vous voulez, sans aucune pensée pour Dieu, ni pour les conséquences sur les autres. Vous n'aviez pas le Saint-Esprit, donc il n'y avait aucune conviction concernant ces choses. Peut-être vous sentiez-vous vide après les avoir faites, mais c'était comme une voiture qui roule sans frein. Paul dit, « Ne retournez pas à cette façon de penser. Ne marchez pas dans ces anciennes voies. Vous êtes la lumière du monde, alors ne retournez pas aux voies des ténèbres. » Paul l'exprime clairement au verset 20. « Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » 21. « Si du moins c'est en lui que vous avez été instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. » Paul nous donne ici une phrase intéressante. Il ne dit pas « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris à propos de Christ. » Mais il dit « Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » N'importe qui peut aller à la bibliothèque, prendre des livres et apprendre des choses sur Jésus. Mais apprendre Christ, c'est autre chose. Apprendre Christ implique une relation. Il nous connaît et nous le connaissons. Jésus a dit, « Mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Vous le suivez et il est avec vous. » La relation commence au moment du salut, lorsque vous vous repentez de vos péchés et placez votre confiance en Jésus comme Seigneur. Et à partir de là, la relation grandit et s'épanouit. Non seulement vous apprenez Jésus, comme le dit le verset 20, mais comme le dit le verset 21, c'est lui le maître, c'est lui le contenu, et c'est encore lui le contenu. Nous sommes enseignés en lui. Nous sommes ses disciples, c'est-à-dire nous sommes les élèves. Comme le dit un auteur, il ne s'agit pas d'une éducation formelle, mais d'une éducation transformationnelle. Nous n'apprenons pas Christ pour devenir plus intelligent. Nous apprenons Christ afin que notre vie soit transformée et que nous devenions davantage comme Jésus. C'est une éducation qui ne finit jamais. Nous n'obtenons jamais notre diplôme parce qu'il y a toujours plus à apprendre et plus à grandir. Une relation avec Dieu doit être vibrante et vivante, remplie de prières, de temps passé avec Dieu dans sa parole et de temps avec son peuple, l'Église. Elle doit être remplie de foi et de confiance dans le Seigneur. C'est très différent de l'image que Paul a dressée de nos vies avant de connaître Jésus dans les versets précédents. Paul dit « Ne retournez pas à cette pensée sombre et ignorante. Au contraire, souvenez-vous de ce que vous avez appris. Souvenez-vous de ce que l'on vous a enseigné. Ne retournez pas en arrière. Ne marchez pas dans ses voies. Suivez Jésus. Continuez à l'apprendre. » 22. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ici, Paul utilise le langage des vêtements. Il parle de « se dépouiller » et de « se revêtir ». Ôtez les vieux vêtements, qui représentent nos vies avant de suivre Jésus, et revêtez les vêtements neufs, qui représentent notre nouvelle vie en lui. Les verbes sont au passé, ce qui signifie que ces choses ont déjà eu lieu lors du salut, mais Paul nous encourage à aligner notre comportement avec la réalité de notre vie en Christ. J'ai raconté cette histoire de nombreuses fois auparavant. Parce que ce langage de se dépouiller et de se revêtir apparaît dans d'autres lettres de Paul. Ce langage me ramène toujours à l'époque où j'avais 10 ans. Je suis allé dans un camp pendant une semaine avec d'autres garçons de mon église. C'était une semaine amusante. Nous courions partout. Nous faisions du sport. Il y avait beaucoup de mouvement. Et le mouvement produit de la transpiration, et la transpiration produit une odeur. Habituellement, une mauvaise odeur. Donc l'un des derniers jours du camp, j'ai pris une douche et j'étais sur le point de m'habiller. Mais en regardant dans mon sac, je me rends compte que je n'ai plus de sous-vêtements propres. Je n'en avais pas emporté assez. Alors, je regarde ma pile de vêtements sales de la semaine. Ces vêtements sales, en sueur et puant, qui sentent comme un garçon de 10 ans, peut sentir. Et j'ai dû plonger dans cette vilaine pile pour trouver un sous-vêtement à enfiler. Et toutes ces années plus tard, je me souviens encore à quel point c'était désagréable. Je venais de me doucher, j'étais propre, mais au lieu de mettre des vêtements propres et frais, j'ai dû remettre mes vieux vêtements qui étaient sales et puants. Paul dit ici que dans notre relation avec Christ, nous avons reçu des vêtements neufs et propres. Nous avons reçu de nouvelles pratiques à adopter qui honorent Dieu. Alors, pourquoi diable retournerions-nous à ces vieux vêtements sales, en sueur et malodorants? Pourquoi reviendrions-nous à ces anciennes pratiques et péchés qui n'honorent pas Dieu? Paul dit, revêtez l'homme nouveau, qui est transformé par le renouvellement de votre intelligence en Christ. À quoi cela ressemble-t-il? Le reste de ces versets du chapitre 4 est pratique, nous montrant comment vivre dans les nouveaux vêtements. Paul commence par dire d'abord ce que vous ne devez pas faire, mais il poursuit ensuite en disant ce que vous devez faire. En d'autres termes, il nous dit quels vêtements anciens enlever, Puis il nous dit quel nouveau vêtement revêtir. Ainsi, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à enlever les vieux vêtements. Il ne s'agit pas simplement d'essayer d'arrêter les mauvaises habitudes et les manières pécheresses. Cela en fait partie, mais ce n'est pas tout. La vie chrétienne consiste aussi à revêtir de nouveaux vêtements. Il s'agit de développer de nouvelles habitudes et de nouvelles pratiques, alors que nous cherchons à honorer Christ dans tous les aspects de notre vie. 25. C'est pourquoi, ayant rejeté le mensonge, que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Paul dit, « Ne mentez pas. Le mensonge, c'est un comportement de vieux vêtements. Au contraire, dites la vérité les uns aux autres, et souvenez-vous du verset 15 que nous avons examiné la semaine dernière. Dites la vérité les uns aux autres dans l'amour. Pourquoi ? Parce que le verset 25 dit que nous sommes membres les uns des autres. Tous ces commandements du chapitre 4 ont une dimension communautaire. Les vieux vêtements déchirent les communautés comme le mensonge, mais dire la vérité dans l'amour contribue à édifier l'Église. Mes enfants sont encore assez jeunes, donc nous avons beaucoup de conversations sur le mensonge et le fait de dire la vérité. Nous leur disons toujours que la confiance est la base de toute relation solide. Dire la vérité construit la confiance, ce qui renforce la relation. Cela crée de l'ouverture et de la collaboration. Cela nous fait nous sentir en sécurité. Mais le mensonge détruit les relations. Il déchire les relations. Là où il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Le mensonge n'a pas sa place dans l'Église de Dieu. Rejetez cela. Parlons-nous la vérité dans l'amour les uns aux autres. 26. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez aucune occasion au diable. C'est un verset intéressant. On pourrait facilement sortir les deux premiers mots de leur contexte et dire « Tu vois, la Bible me dit de me mettre en colère. Mais est-ce là l'intention de Paul ici ? Nous devrions reconnaître que toute colère n'est pas péché. Dans la Bible, nous voyons deux types de colère, la colère juste et la colère injuste. Lorsque nous pensons à la colère juste, nous nous souvenons de Jésus lorsqu'il est entré dans le temple. Au lieu d'être une maison de prière, le temple était devenu une sorte de commerce. Jésus est entré et a chassé les personnes qui vendaient les choses et a commencé à renverser les tables. Jésus était en colère, et il avait raison de l'être. C'était une colère juste. C'était justifié, parce que les pratiques dans le temple étaient devenues mauvaises. Nous aussi, nous devrions être en colère lorsque nous voyons le mal dans le monde. Lorsque nous entendons des histoires d'abus ou d'injustice, ou des choses de ce genre, ces choses devraient nous mettre en colère, parce qu'elles vont à l'encontre du dessein de Dieu et du cœur de Dieu. Mais, Paul dit, « Dans votre colère, ne péchez pas. » En d'autres termes, la colère juste peut facilement glisser vers un comportement pécheur. Il est facile d'aller en ligne et de trouver des chrétiens qui, à un moment donné, étaient peut-être justement en colère au sujet de quelque chose dans le monde, mais dont les publications sont maintenant pleines d'orgueil, de revanche et de désir de gagner. Ils sont devenus ce contre quoi ils étaient autrefois. Jacques 1:19-20 donne de bons conseils. 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Certains chrétiens veulent absolument trouver un sujet de colère. Mais cela ne produit pas la justice de Dieu. Soyez lent à la colère, lent à parler, et j'ajouterai, lent à publier. Paul dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur votre colère. Bien sûr, ce n'est pas littéral. Sinon, les habitants du Groenland pourraient rester en colère tout le temps puisque parfois, le soleil y reste levé 3 mois d'affilée. Ce que Paul essaie de dire, c'est « ne restez pas en colère. Ne laissez pas la colère s'installer et grandir, car cela donne au diable une prise, une opportunité. » Comme je l'ai dit, il est possible d'aller en ligne et de trouver des chrétiens qui sont constamment en colère, au sujet de différentes choses. La colère n'est pas un fruit de l'esprit. Ce n'est pas quelque chose à garder et à accumuler en soi. Jésus a chassé les gens du temple et a renversé les tables. Mais qu'a-t-il fait après cela? A-t-il créé un blog? A-t-il lancé un podcast? A-t-il ouvert une chaîne YouTube pour parler encore et encore des mauvaises choses qui se passaient dans le temple? Non. Il a renversé les tables, puis les aveugles et les malades sont venus à lui pour être guéris. Il a expulsé sa colère et il est passé à autre chose. Des choses mauvaises se produisent-elles aujourd'hui? Bien sûr. Ces choses devraient-elles nous mettre en colère? Oui. Devons-nous rester en colère tout le temps à propos de ces choses, et nous plaindre et publier, et nous plaindre et publier? Non. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, ni donner au diable une prise. Allez plutôt servir quelqu'un. 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Au contraire, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ne volez pas. Cela fait partie de votre ancienne manière de vivre. Lorsque nous pensons au vol, nous imaginons probablement quelqu'un entrant dans un magasin et prenant quelque chose. Peut-être voler de la nourriture ou une chemise. Et nous pensons, ce n'est à moi, je n'ai pas ce problème. Mais dans notre monde en ligne, le vol peut prendre de nombreuses formes. Je me souviens avoir parlé un jour avec quelqu'un qui me montrait tous les logiciels de montage vidéo qu'il possédait. Je savais que c'était de bons logiciels. Je lui ai demandé « Combien tout cela t'a-t-il coûté ?» Il a répondu « Eh bien, je ne les ai pas achetés, je les ai eus en ligne. » Alors je lui ai demandé « Irais-tu chez Zabka pour prendre un coca sans le payer ?» Il a dit « Non, jamais. Vous voyez où je veux en venir ?» Il avait d'une certaine façon justifié cela dans son esprit. Prendre un coca chez Zabka sans payer, c'était du vol. Mais télécharger illégalement un logiciel de montage vidéo ne l'était pas. Mais c'était tout du vol. Paul dit, ne volez pas. Au contraire, faites un travail honnête. Travaillez de vos mains. Faites quelque chose d'utile. Faites quelque chose dont vous pouvez être fier, afin de pouvoir non seulement vous aider vous-même, mais aussi aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. C'est un sentiment formidable de travailler dur, d'être rémunéré pour ce travail, puis de rentrer chez soi, en sachant que vous avez travaillé dur, avec intégrité. Vous pouvez vous regarder dans le miroir et être fier. Et vous pouvez utiliser ce revenu pour bénir les autres. Ne volez pas. Travaillez dur. 29. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche, mais seulement des paroles qui sont bonnes pour l'édification selon le besoin, afin qu'elles apportent une grâce à ceux qui les entendent. Le mot « corrompu » ici est utilisé à d'autres endroits dans la Bible pour décrire quelque chose de pourri, du poisson pourri ou un fruit pourri. Avez-vous déjà mangé un fruit pourri? Son goût est horrible, et cela n'aide certainement pas votre corps à grandir. Il en va de même pour les paroles corrompues. Rien de bon n'en sort. Cela n'apporte que de la décomposition. Je voudrais m'attarder sur un type de parole corrompue, et c'est la médisance. Maintenant, vous pourriez penser que la médisance n'est pas un problème dans les églises, que c'est un problème qui concerne le monde extérieur. Eh bien, la médisance peut faire des ravages dans les églises, parce que nous pouvons la déguiser en demande de prière. Prions pour Suzanne, car elle traverse beaucoup de choses en ce moment. Je t'en dirai plus tard. Prions pour Michael. Je pense qu'il a des problèmes financiers parce qu'il ne donne plus comme avant. Gardons Annabelle dans nos prières. Elle dit qu'elle est chrétienne, mais as-tu vu ce qu'elle a posté l'autre jour? Nous pouvons faire semblant d'être préoccupés, mais en réalité, nous avons quelque chose de croustillant à partager.
As-tu vu George et Lucy, des jeunes adultes? Ils sont toujours assis l'un à côté de l'autre. Il se passe sûrement quelque chose entre eux. La médisance peut se répandre dans les églises comme une traînée de poudre. Et l'église évangélique n'est pas une exception. Je n'entends pas tout, mais j'entends certaines choses. Et parfois, j'entends des ragots à propos de quelque chose que j'aurais soi-disant dit. Et c'est peut-être à moitié vrai, ou bien pas vrai du tout. Et je me demande, pourquoi la personne n'est-elle pas venue me voir directement pour me demander si c'est vrai?
Il y a un dicton. La médisance fait toujours du tort à au moins 3 personnes. Celui qui parle, celui qui écoute, et celui dont on parle. La médisance peut se répandre dans les églises comme une traînée de poudre. Mais un feu ne peut pas grandir sans oxygène. Donnez-vous de l'oxygène à la médisance? Aidez-vous à la répandre? Ou l'arrêtez-vous? Ne donnez pas d'oxygène à la médisance. Éloignez-vous ou mettez-y un terme. Si cette personne a un problème avec quelqu'un, dites-lui d'aller parler directement à cette personne. La médisance peut détruire des églises, les murmures aussi. Se plaindre constamment des choses, c'est aussi une parole corrompue. Cela fait baisser l'ambiance. Mentir ou être grossier corrompt également.
Paul dit, « Ne démolissez pas les autres avec vos paroles. Ceux-là, ce sont les vieux vêtements. Mettez plutôt les nouveaux vêtements. Édifiez les autres avec vos paroles. Souvenez-vous, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à ne pas faire quelque chose, mais aussi à faire quelque chose qui édifie et qui construit. Comment pouvez-vous édifier quelqu'un d'autre? Tout d'abord, vous pouvez l'encourager par vos paroles. Vous pouvez lui dire « bon travail ». Vous pouvez mettre en avant les forces que vous voyez en lui et montrer comment Dieu l'utilise. Vous pouvez exprimer votre reconnaissance à quelqu'un par vos paroles. J'ai encore des mots que des personnes m'ont écrits il y a 15 ans. Des paroles de gentillesse et de reconnaissance que l'on m'a adressées. J'adore jeter les choses, mais je n'ai jamais pu jeter ces mots-là. Ce sont des paroles vers lesquelles je peux me tourner lors des jours difficiles. Vous pouvez édifier les autres en leur offrant des conseils avec vos paroles. Bien sûr, en tant que croyants, nous pouvons utiliser nos paroles pour prier les uns pour les autres, pour prononcer des bénédictions les uns sur les autres. Vos paroles peuvent apporter la guérison à quelqu'un. Dire « je suis désolé » ou « je te pardonne », ce genre de paroles construit la communauté.
Jésus a dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que révèlent vos paroles sur votre cœur ces derniers temps? Cherchez-vous à édifier les autres par vos paroles, ou bien à les démolir? Débarrassez-vous des vieux vêtements de la médisance, des plaintes ou du mensonge. Revêtez les vêtements neufs de paroles qui donnent la grâce, des paroles qui encouragent, et qui édifie le corps du Christ. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Paul souligne que nos actions n'affectent pas seulement nous-mêmes ou les autres, mais elles affectent aussi Dieu. Lorsque vous revêtez les vieux vêtements de comportement pécheur, le Saint-Esprit est attristé. Le mot « attristé » ici signifie « causer du chagrin ou de la douleur ». Le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellé au jour du salut, est peiné lorsque vous péchez. Cela trouble le Saint-Esprit. Cela lui cause de la peine lorsque vous choisissez votre chemin au lieu de celui de Dieu, car Dieu désire bien plus pour vous et pour votre vie. N'attristez pas le Saint-Esprit. Marchez plutôt selon l'Esprit. Soyez sensibles à ce que le Saint-Esprit
vous appelle à faire. Dernier verset. 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons parlé plutôt d'une colère juste, d'une colère qui vient d'une bonne intention. Mais ici, nous voyons une colère injuste, une colère qui vient probablement d'une blessure ou d'attentes déçues, et qui est ensuite exprimée de manière improductive. On mentionne ici l'amertume. L'amertume est comme un poison qui infecte tout. Elle provient presque toujours de blessures passées. Une personne amère a vécu quelque chose qui n'a pas été guéri, et son amertume s'exprime dans chaque conversation. La fureur serait une explosion de colère. Le tumulte représente deux personnes qui se disputent et crient l'une contre l'autre. La calomnie concerne nos paroles, des propos corrompus. C'est démolir quelqu'un par nos paroles. La méchanceté, c'est simplement être cruel ou malveillant envers autrui. Tous ces mots du verset 31 sont méchants. Ils manquent de paix, ils manquent d'amour, ils manquent d'espérance, et ils manquent de joie. Ils peuvent venir d'un endroit réel, ils peuvent venir d'une véritable blessure. Mais si vous restez toujours dans cet état, au lieu de chercher la guérison de ces choses auprès du Seigneur, ce n'est pas seulement un poison qui vous infecte, c'est un poison qui infecte l'Église. L'amertume, la fureur, la colère, le tumulte, la calomnie, la méchanceté, ce sont des choses des vieux vêtements. Il est temps de les enlever et de s'en débarrasser. En fait, il est probablement temps de brûler ces vieux vêtements. Avez-vous déjà eu des vêtements tellement vieux et malodorants qu'il valait mieux les brûler? C'est pareil avec ces comportements. Ces comportements ne conviennent pas à un croyant né de nouveau en Christ. Débarrassez-vous-en tous. À la place, Paul dit, soyez bons, soyez compatissants, et pardonnez, comme Dieu vous a pardonné. Il y a quelques semaines, Princess m'a écrit un mot très gentil. C'était sur une simple feuille de papier. Il ne faisait qu'environ 3 phrases. En d'autres termes, ce n'était pas coûteux, et cela n'a pas pris beaucoup de temps à écrire. Mais cela m'a tellement touché. Mais voici le point important. Il a peut-être fallu 2 minutes pour écrire ce mot avec un stylo. Mais je dirais qu'il a fallu des années de marche avec Jésus pour écrire ce mot. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'une personne pleine de ressentiment n'a pas de place dans son cœur pour écrire un mot gentil. Une personne en colère n'a pas de place dans son cœur pour écrire un mot gentil. Un voleur est trop préoccupé par la peur de se faire prendre pour écrire un mot gentil. Un menteur est trop préoccupé par la peur de se faire prendre pour écrire un mot gentil. En d'autres mots, une personne tellement absorbée par ses propres problèmes, par son propre péché, n'a même pas l'espace pour penser à comment bénir quelqu'un d'autre. Mais une personne qui a mis tout cela de côté, des paroles corrompues, l'amertume, la colère, toutes ces choses, et qui a revêtu tous les vêtements neufs, dire la vérité avec amour, édifier les autres par ses paroles, travailler honnêtement, être plein de tendresse, être dans le pardon. La personne qui a revêtu tous ses nouveaux vêtements est libre de penser aux autres. La bonté ne demande pas beaucoup de temps ni beaucoup d'argent, mais elle est le fruit d'un apprentissage fidèle et constant de Christ et de la marche dans ses voies. Laissez-moi terminer par cette question. Que portez-vous ce matin? Je ne parle pas d'Armani ou de Gucci. Je parle spirituellement. Que portez-vous? Est-ce que vous vous promenez en colère et plein d'amertume? Est-ce que vous rabaissez les gens avec vos paroles? Est-ce que vous retournez à ces anciennes habitudes et ces anciens chemins qui étaient normaux avant de rencontrer Jésus? Frères, sœurs, il est temps. Il est temps de mettre ces choses de côté. Revêtez les nouveaux vêtements de la vérité, de paroles qui édifient, de bonté,
de tendresse et de pardon.